Chers amis, bonjour. Qu'est-ce que le combat spirituel ? C'est une guerre invisible, une guerre intérieure, une guerre qui a lieu dans notre conscience et dans notre liberté. Nous ne pouvons pas nous y dérober parce que nous sommes attaqués. Attaqués par des ennemis qui veulent nous empêcher de vivre, c'est-à-dire nous conduire à la mort, qui veulent nous écarter de la vérité, c'est-à-dire entrer dans le mensonge, qui veulent nous éloigner du réel, c'est-à-dire nous faire entrer dans l'illusion, qui veulent nous empêcher d'aimer, c'est-à-dire de céder à la violence, au ressentiment, à la haine, et donc nous rendre malheureux. Qui sont ces ennemis invisibles ? Ce sont des anges révoltés contre Dieu et qui sont devenus ennemis de l'homme. Ce sont les démons qui nous tentent. Par exemple, qui tente Thérèse de se décourager, qui tente Thérèse de douter du ciel, et qui nous tente, nous aussi. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel proprement dit, contre ces anges invisibles. Ces anges, ces démons, animent l'esprit du monde, qui s'oppose à l'Évangile et qui marque le monde qui nous entoure. C'est dans l'expérience de Thérèse le combat de l'incroyance contre l'incroyance, l'athéisme. Et ces deux ennemis ont un allié dans la place, ce que saint Paul appelle l'homme ancien, avec, dit Thérèse, l'orgueil, l'indépendance, la volonté propre. Et Thérèse mènera un combat pied à pied contre son amour propre, mais aussi contre son hypersensibilité. On pourrait dire que là, c'est un combat humain contre la chair, c'est-à-dire mon humanité, quand elle tente à s'opposer à la volonté de Dieu. Quel est le but de ce combat spirituel ? Eh bien, vaincre ses ennemis, être libéré du mal, pour pouvoir aimer de l'amour même de Dieu, pour pouvoir nous unir au Seigneur qui est la vie, qui est la vérité, qui est l'amour. Pouvoir lui faire plaisir, accomplir sa volonté, ressembler à Jésus en nous aimant les uns les autres. Comment combattre ? Thérèse disait qu'elle aimait combattre les armes à la main. Pour Thérèse, ses armes, c'est l'humilité, l'amour, la confiance, l'abandon, la prière, l'obéissance, les sacrements, la parole de Dieu. Thérèse résume ainsi son combat spirituel à sa sœur Léonie : que votre vie soit toute d'humilité et d'amour, afin que vous veniez où je vais, dans les bras de Jésus. Cette phrase contient deux mots clés : l'humilité et l'amour. Pour Thérèse, l'humilité, c'est la vérité. Comment nous enseigne-t-elle à croître dans la vérité et l'amour ? Je vous propose de le développer en quatre points, c'est facile de s'en souvenir. Premier point, ô mon Dieu, faites que je vois les choses telles qu'elles sont. que rien ne me jette de poudre aux yeux. Thérèse souhaite accueillir le vrai de la vie. Voilà le premier conseil qu'elle nous donne. Dans le combat spirituel, refusez d'imaginer ce que je ne connais pas. Saisir la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire ne pas chercher à tordre la réalité selon ce que je pense, selon ce que j'imagine, selon ce que je désire. Thérèse repousse tout ce qui brille ou qui séduit le regard. Et c'est la raison pour laquelle elle ne voudra pas emprunter de voie extraordinaire. Jésus n'a pas besoin de nos belles pensées, de nos œuvres éclatantes. Il chérit la simplicité. Donc rien que la vie ordinaire, la banalité d'un quotidien dont Thérèse accueille toute la densité, même pénible comme ce sentiment d'exil, dans une foi qui espère. C'est la définition de la confiance. Dans une foi qui espère. Et elle aime cultiver cette attitude à tel point que la vérité deviendra la grande quête de sa vie. Je ne puis me nourrir que de la vérité. Oui, il me semble que je n'ai jamais cherché que la vérité. Oui, j'ai compris l'humilité du cœur. Elle répétera cela deux fois dans les derniers jours de sa vie. Pour nous, c'est essentiel. C'est donc le premier lieu du combat. Amour et vérité s'embrassent, dit le psalmiste. Impossible d'aimer en dehors de la vérité et du vrai de la vie. Donc, premier élément de discernement spirituel, refuser ce qui n'est pas. Refuser l'irréel, refuser l'imaginaire. Je ne parle pas de l'imagination, l'imaginaire, l'illusion, le mensonge, pour nous attacher à la vérité, à la réalité, à l'instant présent, comme Thérèse, avec Thérèse. C'est donc le premier point. Je vous en propose un deuxième. Que ton but soit unique, écrit Thérèse à Léonie, faire plaisir à Jésus. Deuxième point de son combat spirituel, travailler pour le seul amour de Jésus. Le Seigneur lui-même le dit à ses amis dans l'Évangile, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Or, ce que l'on traduit en français par « volonté », on sait qu'en hébreu, cela se dit « rasson ». Et « rasson » en hébreu peut tout à fait se traduire « plaisir, joie, désir ». Jésus fait le plaisir, fait la joie, accomplit le désir de son Père. Saint Jean dit, il fait toujours ce qui lui est agréable. Il s'agit donc de faire toujours ce qui est agréable au Seigneur, de faire sa joie en mettant en pratique ce qu'il nous demande. Comment Thérèse fait-elle concrètement ? Eh bien d'abord, me semble-t-il, par la prière. Le saint nom de Jésus. Thérèse le garde dans son cœur, le murmure sur ses lèvres, Seigneur Jésus. Elle pense à lui. Elle s'élance vers lui par un regard, par un élan du cœur, par un cri d'appel. Et cela jusqu'à ce que ça devienne quasi constant. Elle vit pour lui. Et elle nous invite à lui donner notre sourire, surtout quand nous sommes dans les difficultés ou dans l'épreuve ou les contrariétés. Elle attire notre attention sur le champ de notre cœur, au creuset de notre faiblesse. Et elle invite sa sœur, ne crains pas de dire à Jésus que tu l'aimes, même sans le sentir. C'est le moyen de forcer Jésus à te secourir. Le mot est important. Forcer Jésus à te secourir. Donc, premier moyen, le travail de la prière pour le seul amour de Jésus. Le deuxième moyen, ce sont toutes ces petites actions à sa portée, à notre portée. Quand je suis incapable de prier, quand je ne sens rien, c'est alors le moment de chercher de petites occasions, des riens qui font plaisir, plus de plaisir à Jésus que l'empire du monde ou même que le martyr souffert généreusement. Cette parole est impressionnante. Plus de plaisir à Jésus que l'empire du monde ou même que le martyr souffert généreusement. Ainsi, une parole aimable, alors que j'aurais envie de ne rien dire ou d'avoir l'air ennuyé. Ou encore, un service caché, un désir contrarié, mais offert, la privation d'un petit plaisir, un effort pour me rendre disponible, alors que je n'en ai pas envie. Voilà quelques exemples que nous donne Thérèse et nous. Quelles sont ces petites actions à notre portée que nous nous efforçons de vivre et d'offrir à Jésus? Et Thérèse s'efforce d'y être fidèle. C'est là une caractéristique de son combat, et ça peut être le nôtre aussi, faire du petit pour obtenir du grand. Faire du petit pour obtenir du grand. Cela traduit chez elle la vitalité de la vertu d'espérance. Thérèse a des yeux d'aigle, c'est-à-dire qu'elle désire grand, mais elle s'engage dans du petit. Car elle sait pertinemment que si elle a un cœur et des yeux d'aigle, elle a un corps, des ailes de petit moineau qui ne sait pas voler. Et donc c'est cette vertu d'espérance qui lui permet de faire du petit pour obtenir du grand. Ainsi, la prière, ces petites actions, voilà deux moyens pour travailler pour le seul amour de Jésus. Elle nous en propose un troisième, l'audacieuse confiance. Cet adjectif associé à la confiance, l'audace de l'amour dans la confiance. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour, dit-elle. Jésus ne saurait tromper notre confiance. Ainsi, c'est quand j'ai peur, peur parce que je suis pécheur, peur parce que j'ai honte, peur parce que je me sens faible, incapable. C'est quand j'ai peur que je vais m'approcher de l'amour avec la confiance. La confiance est le lien qui me fait passer de la peur à l'amour. Comment s'y prend Thérèse? D'abord en ne se justifiant pas. C'est-à-dire en reconnaissant ses torts et en demandant pardon d'un cœur sincère. Encore une fois, il s'agit de dire la vérité, de ne pas se mentir à soi-même. Je regrette ce que j'ai fait, dit-elle. Le souvenir de mes fautes m'humilie, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force. Mais plus encore, ce souvenir de ma faute me parle de miséricorde et d'amour. Donc Thérèse y prend d'abord en ne se justifiant pas, en reconnaissant la vérité de sa faiblesse, de son péché. Mais aussi, deuxièmement, en ne se décourageant jamais. Et c'est la grande résolution qu'elle a prise dans son enfance, croire à l'amour miséricordieux de Dieu. Elle raconte cette histoire. Un roi partit à la chasse et poursuivait un lapin blanc que ses chiens allaient bientôt atteindre. Quand le petit lapin, se sentant perdu, rebroussa chemin rapidement et sauta dans les bras du chasseur. Celui-ci, touché de tant de confiance, ne voulut plus se séparer du lapin blanc, ne permettant à personne d'y toucher, se réservant lui-même le soin de le nourrir. Cette charmante histoire de son enfance l'a marquée toute sa vie. Ainsi commente-t-elle, « Le bon Dieu fera-t-il avec nous ?» Si poursuivi par la culpabilité de notre conscience, figurée par les chiens, nous cherchons refuge dans les bras même de notre juge. Voilà donc deux moyens puissants dans le combat spirituel, accueillir le vrai, la vérité, et travailler pour le seul amour de Jésus. Thérèse va nous en proposer un troisième, qui est central, qui est d'une importance capitale et qui est en même temps délicat à vivre. Accueillir l'humilité de Jésus. Impossible d'aimer sans humilité. Mon cœur n'est pas tout à fait vide de moi, et c'est pour cela que Jésus me dit de descendre. Quand elle écrit cela, elle a 19 ans. Essayons de bien le comprendre. Thérèse a appris à s'affirmer devant autrui, par exemple au cours de son voyage à Rome en pleine adolescence. Elle a appris à maîtriser et à conduire correctement ses affaires. Elle a appris à prendre sa place dans un groupe, dans une communauté. C'est la part humaine indispensable que chacun doit acquérir pour devenir lui-même. Et une fois que cela est acquis, elle adopte l'attitude spirituelle qui consiste à descendre. Comme Jésus, qui s'abaisse. Car, dit-elle, le propre de l'amour est de s'abaisser. Elle nous invite donc, et avec elle tous les saints de l'Église, à descendre du piédestal de l'image lissée de moi-même, de l'image idéalisée parce que blessée, de l'image survalorisée ou dévaloriser de moi-même, c'est-à-dire descendre à mes propres yeux, renoncer à partir à la conquête des hauteurs et des sommets pour descendre, dit-elle, dans l'humble vallée fertile qui sert de demeure à Jésus. Essayons donc de bien le comprendre, que veut-elle dire par là ? D'abord, Thérèse fait le constat de sa fragilité. Et là, elle nous rejoint bien. Elle n'a pas eu la pleine maîtrise d'elle-même pendant une dizaine d'années. Elle s'est heurtée à des désirs infinis sans pouvoir les satisfaire. À 9 ans, le sourire de Marie. À 14 ans, la grâce de Noël ont été la preuve vivante de la puissance de Dieu dans sa faiblesse. Elle n'y arrivait pas et en un instant, le Seigneur va changer sa vie. Elle sait donc que tout lui vient de Dieu. Le bon Dieu me montre la vérité. Je sens si bien que tout vient de lui. C'est-à-dire que nous ne sommes à l'origine d'aucune bonne action. C'est Dieu qui l'accomplit en nous. C'est justement pour cela que je m'humilie davantage. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand je pense à toutes les grâces que le bon Dieu m'a faites, je me retiens pour ne pas verser continuellement des larmes de reconnaissance. Prise de conscience de ma faiblesse, vérité que toutes les bonnes choses qui viennent dans ma vie ou que je peux accomplir viennent de Dieu. Et troisièmement, entrer dans la gratitude, l'action de grâce envers Dieu. Je suis petit et faible, Dieu accomplit des belles choses dans ma vie, ça vient de lui, je l'en remercie. Voilà l'attitude thérésienne essentielle qui consiste à descendre de son piédestal, c'est-à-dire à penser que certaines bonnes choses viennent de moi. Pour Thérèse, son indigence n'est plus un obstacle, comme elle la reste pour nous, et c'est en cela qu'elle nous enseigne. Elle nous apprend à nous servir de nos incapacités, de notre faiblesse, de notre indigence, comme d'un levier. Pour moi, je n'ai que des lumières pour voir mon petit néant. Cela me fait plus de bien que des lumières sur la foi. Elle nous apprend donc à ne pas nous désoler de notre faiblesse, à accueillir ces lumières de la vie quotidienne qui nous sont données pour montrer que je suis plus faible, plus incapable, plus misérable que je ne le pensais, mais dans la confiance en Dieu. À les rechercher même pour apprendre à descendre de mon piédestal à mes propres yeux. Car, dit Thérèse, pour jouir de la bonté de Dieu, il faut s'humilier, s'abaisser à ses yeux, se considérer au-dessous des autres. Et voilà ce que beaucoup ne veulent pas faire. Je peux sincèrement en témoigner, c'est ce à quoi notre nature a le plus de mal à vivre. C'est là que notre nature se rebiffe, s'humilier, s'abaisser. Nous avons un besoin constant de valoriser notre image de marque. Je ne m'appuie pas sur mes propres forces. Car si elle le faisait, si nous le faisons, nous allons ressentir la vanité quand ça marche bien et le découragement quand ça ne marche pas. Je ne m'appuie pas sur mes propres forces, mais sur la force de celui qui a vaincu les puissances de l'enfer. Si je suis fort, c'est le Seigneur qui me rend fort. Voilà donc la délicate articulation à bien connaître dans le discernement spirituel, une raisonnable confiance en soi. J'ai des capacités humaines que j'ai déployées, des talents que j'ai reçus, que j'ai fait fructifier. Donc une raisonnable confiance en soi et une totale défiance de soi quant à la vie spirituelle. Quant à mon aptitude à aimer d'une manière désintéressée, quant à ma capacité à pardonner, quant à ma capacité à être patient, Dieu seul peut accomplir cela en moi. Thérèse pose donc un choix radical. Ne plus fuir ou ne plus résister à sa fragilité. Mais rester dans la réalité de cette expérience et consentir. Consentir à être limité. Consentir à être faible, à être pauvre, dépouillé, parfois sans force, afin d'offrir à Dieu ma confiance. En un mot, dit-elle, aimer doucement sa misère. C'est pour nous faire le deuil de la toute-puissance, c'est faire le deuil progressif du point d'orgueil, de la vanité, de notre désir d'être au-dessus des autres. C'est si profitable, si doux, dit-elle, de se sentir faible et petit. Quand cela nous propulse avec confiance dans les bras de Dieu. Voilà, c'est cette association qui est capitale dans la vie thérésienne. Se sentir faible et petit, en soi, ça n'a pas de valeur. C'est désagréable. On pourrait dire que ce n'est pas humain, il faut être fort et puissant. Être faible et petit et fragile, c'est une réalité humaine, certes, mais que nous avons du mal à accueillir. Mais quand cela nous propulse avec confiance dans les bras de Dieu, le voilà le levier. Et là, c'est un choix de Thérèse. C'est donc un choix de notre part de découvrir et de mettre en œuvre ce levier. Donc, ressentir ma fragilité, la reconnaître, y consentir, sans démissionner de ma responsabilité, c'est-à-dire tout en continuant à faire tout ce qui dépend de moi et de toi, le ciel t'aidera. Et m'appuyer sur la force de Jésus, en le lui signifiant, Seigneur, je me sens faible, je n'y arrive pas, je te dépose tout ça et je m'appuie sur toi. Je te fais confiance. Voilà certainement un enseignement majeur de Thérèse. Vivre mes limites d'une autre manière. Comprendre ce qui se passe. Et lui donner un sens stimulant dans ma vie spirituelle, c'est-à-dire en faire un moyen puissant du combat spirituel. C'est, je pense, une des marques de l'originalité de son combat, parce qu'il rétablit, il construit, il fortifie le lien filial avec Dieu, ma dépendance vitale avec lui. Comme un petit enfant qui compte sur son père et sa mère, et quel drame quand il n'a pas de père, quel drame quand il n'a pas de mère. Mais nous, nous avons un père, c'est Dieu, nous avons une mère, c'est Marie, c'est l'Église. Estimons-nous de petites âmes qu'il faut que le bon Dieu soutienne à chaque instant. Dès qu'il nous voit bien convaincus de notre néant, il nous tend la main. C'est cela le caractère du bon Dieu. Oui, Dieu est ainsi. Alors, est-ce que moi, est-ce que toi, est-ce que chacun de nous, nous pouvons nous considérer une petite âme? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui définit la petite âme? Thérèse nous le dit. Tu es une petite âme si, ayant la conscience aiguë de ton indigence, tu places toute ton espérance en Dieu. Je répète. Si, ayant la conscience aiguë de ton indigence, tu places toute ton espérance en Dieu. Donc, plus j'ai conscience de mon indigence, et plus je compte sur le Seigneur, avec confiance, et m'abandonne entre ses bras, plus je suis une petite âme que le Seigneur soutient à chaque instant. J'ai donc besoin de prendre conscience de cela et de ne pas me situer dans la cour des grands. Mais attention, une fois encore, s'estimer petit, avoir une piètre opinion de soi dans le domaine spirituel, s'appuyer sur Jésus ne détruit pas l'inestimable valeur de mon être aux yeux de Dieu. Ce que je suis est sorti des mains de Dieu. Mon être a une valeur inestimable créée à l'image et pour la ressemblance de Dieu. Ce sont donc mes actes en parole, en pensée, en action, qui sont de piètre valeur et même mauvais quand il s'agit du péché. Thérèse nous dit, si Dieu veut de belles pensées et des sentiments sublimes, il a ses anges. Il peut créer des êtres si parfaits qu'ils n'auraient aucune des faiblesses de notre nature. Mais non, il met ses délices dans de pauvres créatures faibles et misérables, sans doute que cela lui plaît mieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Plus j'accepte ma faiblesse et je compte sur Dieu, plus je fais la joie de Dieu. C'est cela que Thérèse nous apprend. Voilà le caractère du bon Dieu. Dieu est ainsi qu'il aime se donner à celui qui se considère et s'accepte pauvre et indigent devant lui. Et Thérèse s'y entraîne activement, et pour cela elle s'aide d'images ou de symboles par lesquels elle nourrit sa réflexion et sa prière. Il y en a une multitude dans ses écrits, la fleur des champs, la goutte de rosée, le moineau, le grain de sable et surtout le petit enfant. Certes, certains de ces symboles ne vous parlent pas. Peut-être d'autres vous soutiennent et vous aident. Il faudra donc que j'en choisisse un qui me convienne, de manière à me considérer. La considération, c'est se regarder et s'estimer de cette façon-là. Mais d'une manière qui m'abaisse de mon piédestal, qui abaisse par la pensée ma manière de voir sur moi-même. Tous les saints ont utilisé de telles métaphores. Par exemple, les apôtres se considérer comme les serviteurs, apôtres et serviteurs du Christ Jésus. Jeanne Jugan se voyait comme une petite grenouille devant le bon Dieu. Mère Teresa comme un petit crayon du Seigneur. Bernadette Soubirous comme un balai derrière la porte. Les grands papes comme le serviteur des serviteurs. Alors et nous? Et moi? Et toi? Quelle image alimente ma réflexion et ma prière? Comment je me considère devant Dieu? Et je terminerai maintenant avec le quatrième et dernier point, puisque nous avons parlé de la vérité, nous avons parlé de travailler pour le seul amour de Jésus, puis nous venons d'aborder l'humilité, descendre de son piédestal, et je terminerai avec l'abandon, donner, se donner, s'abandonner. Jésus m'enseigne à tout faire par amour, à ne lui rien refuser, à être contente quand il me donne une occasion de lui prouver que je l'aime. De lui donner l'occasion de lui prouver que je l'aime. L'amour se prouve par le don de soi au cœur du combat. Je ne veux pas donner pour recevoir. C'est le bon Dieu que j'aime, ce n'est pas moi. L'amour partage nous est tout à fait accessible. Je te donne, tu me donnes. Tu me donnes, je te donne. C'est un amour humain qui ne dépend que de notre volonté. Mais là, il s'agit de l'amour qui se prouve. C'est-à-dire que je donne et il me semble que je ne reçois rien. C'est l'amour gratuit, l'amour désintéressé. Je donne à l'autre pour le bien de l'autre, sans attendre en retour. Saint Jean, dans son épître, nous le dit clairement, c'est le plus grand amour. Donner, se donner, donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc donner est naturel, se donner sans retour est surnaturel. Il n'y a que Dieu qui peut l'accomplir en moi. Mais je suis invité, pour qu'il l'accomplisse en moi, à y collaborer. Quelle est l'attitude qui signifie ce don ? C'est l'abandon. L'abandon confiant à Dieu. Comment naviguer sur la mer orageuse du monde ? Demande Thérèse. Avec l'abandon et l'amour d'un enfant. Qui sait que son père le chérit et ne saurait le laisser seul à l'heure du danger. Cette disposition intérieure, nous dit Thérèse, rejoint si fortement le cœur de Dieu qu'il est en quelque sorte obligé de nous garder. On a entendu tout à l'heure le verbe « forcer » Jésus, et maintenant on entend celui de « obliger Dieu de nous garder ». Il intervient, ce Seigneur, en notre faveur, car le Dieu fort aime à montrer sa puissance en se servant du rien. Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, le disait déjà très clairement, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Thérèse écrit encore, « Pour moi, je trouve la perfection bien facile à pratiquer. Il n'y a qu'à prendre Jésus par le cœur. » Qu'est-ce que cela signifie ? Je vous l'ai déjà développé, mais Thérèse continue encore, « C'est imiter l'enfant qui se jette dans les bras de son père en disant qu'il regrette de lui avoir fait de la peine, qu'il l'aime. » Et qu'il sera sage désormais. Donc, attendre dans l'épreuve, aimer dans l'épreuve, s'abandonner avec confiance en se tenant paisible contre le cœur de Jésus. Bientôt, le calme, nous dit Thérèse, la paix, sinon la joie renaîtra. Et Thérèse conclut, c'est l'abandon seul qui me guide. Je ne puis plus rien demander avec ardeur, excepté l'accomplissement parfait de la volonté du bon Dieu sur mon âme. Je n'ai plus d'autre désir, si ce n'est celui d'aimer. Ainsi donc, entrer dans la vérité, accueillir le vrai de la vie, travailler pour le seul amour de Jésus, cultiver et accueillir l'humilité de Jésus, Jésus qui descend, descendre aussi à nos propres yeux et donner, se donner, s'abandonner Voilà les grandes lignes du combat spirituel de Thérèse. Et nous pourrions simplement conclure avec cette prière que vous connaissez bien, que Thérèse aurait pu écrire, et qui est sortie du cœur du bienheureux Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, je ne désire rien d'autre. Mon Dieu, je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains avec une infinie confiance, car tu es mon Père.